Bonsoir, cher Antoine.
Bonsoir, Alain Laporte. Bonsoir à toutes et à tous. Bernard Faucroule, le directeur du Festival d'Aix-en-Provence, quittera ses fonctions en décembre 2017. Nous apprenait fin décembre une brève de la Croix. À cette date, il aura achevé son troisième mandat à la tête de l'institution d'art lyrique et n'embrigue pas un quatrième. Tout en poursuivant son engagement au service de la diffusion artistique, Bernard Faucroule, remarquable organiste, souhaite se consacrer à l'interprétation et à la composition. Un mois plus tard, une autre brève de la Croix signale que c'est le réalisateur Christophe Honoré qui fera l'ouverture du prochain festival d'Aix-en-Provence. Familier des plateaux lyriques, le cinéaste réalisera sa première production au Festival d'art lyrique avec le Così fan tutte de Mozart, génial marivaudage, tout de délicate cruauté, d'humour et de mélancolie, dont le titre signifie pour les non-italianophones « Ainsi font-elles toutes » et « Que font-elles toutes ces dames du scandale ?» Parfois, le chef Myung Chung a démissionné de son poste à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Séoul, a-t-on lu mi-janvier dans l'Obs, sa femme aurait demandé à des musiciens d'accuser la présidente de l'orchestre de harcèlement sexuel. Depuis, précise Diapason, elle a été elle-même accusée de diffamation à l'encontre de l'ancienne présidente de la formation sur fond d'interminables guérillas internes. Le mieux reste donc de tenir les femmes à l'écart des orchestres, comme le rapporte cette autre information de Diapason. L'Orchestre Symphonique de Téhéran devait se produire fin novembre dans le cadre d'une compétition de lutte en Iran. Rien de très spectaculaire au programme qui comportait l'hymne national, mais au dernier moment, les organisateurs ont refusé la présence de femmes dans les rangs de la formation. Les chaises étaient disposées et tout avait l'air en ordre, a relaté le chef permanent de l'orchestre, Alexander Rabari, formé à Vienne. Mais avant l'hymne, ils ont annoncé que les femmes ne pouvaient pas monter sur scène. Impossible pour moi d'accepter une telle insulte. Nous jouons tous ensemble ou nous ne jouons pas, a signifié le chef aux organisateurs. Les chanteuses ou musiciennes n'ont pas le droit de se produire seules sur scène depuis la révolution islamiste de 1979, mais elles sont théoriquement autorisées à jouer dans un orchestre. Faut-il voir dans cet incident un nouveau raidissement du régime des mollahs ? Heureusement, sous nos latitudes, les femmes peuvent jouer dans des orchestres et même les créer. Cela faisait un moment, écrit Christian Merlin dans le Figaro, que l'on était intrigué par cet orchestre français au nom anglais, récemment apparu dans le paysage musical comme un ovni, l'Alma Chamber Orchestra. Peut-être n'y aurait-on pas prêté attention. Sans son côté, People, la fondatrice et premier violon de cet ensemble, et Anne Gravoin, qui n'est autre que l'épouse du Premier ministre, Manuel Valls. De fait, l'autre soir, pour leur concert à la Philharmonie de Paris, on pouvait croiser beaucoup de têtes couronnées de la politique et du showbiz, que l'on ne voit jamais, à un concert classique. Des discours introductifs, rendus plus fastidieux que d'ordinaire par une mauvaise sono, rappellent que cet orchestre a été fondé pour défendre la cause de la paix, que son président est un homme d'affaires, très actif au Koweït, Zouhir Boudemag, et que les musiciens vont se produire au Qatar. Que la musique soit un message de paix, cela ne faisait pas de doute. Le divan de Daniel Barenboim en est une preuve quotidienne. On est plus dubitatif, tempère le critique musical du Figaro, sur la nécessité d'un concert de plus à Paris, où la saison symphonique est déjà dense, avec un programme tout ce qu'il y a de conventionnel. Mais qu'à cela ne tienne, si la sincérité l'emporte sur le coup médiatique, pourquoi pas ? D'autant que le chef Lionel Bringuier est l'une des étoiles de la jeune génération de maestros français, et que la seule présence de la pianiste Martha Argerich nous ferait nous déplacer même en civière. D'ailleurs, autant le dire d'emblée, elle a été tout simplement fabuleuse dans le concerto numéro 2 de Beethoven, feu d'artifice, de liberté et d'inventivité. L'intérêt était de découvrir la personnalité musicale de cet orchestre, et là la perplexité s'accroît. En voyant ses membres entrer sur scène, on reconnaît celui-ci, puis celui-là. Ah tiens, lui aussi et elle également, on croit se retrouver à un concert d'abonnement de l'orchestre de Paris. Une bonne partie des cordes et la quasi-totalité des pupitres, de l'harmonie jusqu'au timbal en sont issus. Ajoutez le violoncelle solo, la chef d'attaque des seconds violons et plusieurs toutistes de l'opéra, une pincée de musiciens du national, et vous aurez l'impression d'une réunion de mercenaires issus des formations parisiennes, comme au bon vieux temps des orchestres de studio. Il est vrai que la régie d'orchestre est la spécialité d'Anne Gravoin, imbattable dans l'art de réunir des musiciens pour les spectacles des stars de variété. Elle a même régénéré ce métier que l'on croyait disparu et qui fut florissant dans les années 1970 et 80, quand musique de film et show télévisé procuraient des affaires aux musiciens classiques les plus débrouillards. On surnommait alors les requins, ceux qui entraient dans ce circuit lucratif, et lorsqu'on regardait les émissions de Mariti et Gilbert Carpentier ou de Michel Drucker, on croyait voir une annexe de l'orchestre de l'opéra accompagné de Johnny ou Michel Sardou. Le retour en force des effectifs symphoniques dans la variété a entraîné celui des orchestres de cachetonneurs. Le problème, c'est que dans le répertoire classique, il faut plus qu'un bon carnet d'adresses pour faire un véritable orchestre. L'autre soir, dans l'ouverture, les Hébrides de Mendelssohn, comme dans la symphonie Rhénane de Schumann, on a été frappé par la sonorité froide et lisse des cordes, sans densité ni grain sonore, sans parler des décalages flagrants dans le concerto, phénomène que ne pouvait arranger la direction droite et précipitée de Lionel Bringuier, qui laissait peu de place à la respiration et au phrasé, sans parler de la poésie. Il faut beaucoup plus, conclut Christian Merlin, que quelques coups de téléphone pour arriver à forger un son commun. Ce sera la leçon musicale de ce concert, au-delà du message humanitaire.